Aujourd'hui, à Rencontre, c'est la fête de Saint-Camille de l'Hélice, un délinquant, un joueur de cartes, un type qui perdait tout jusqu'à sa dernière chemise, un saint curieux, un saint extraordinaire et un saint finalement imitable, puisqu'il a eu beaucoup de difficultés à se convertir. Ça ressemble beaucoup à certains d'entre nous, du moins, ça me ressemble beaucoup. Que c'est difficile de se convertir et que c'est difficile de se relever constamment, hein. Et alors, nous allons parler aussi d'un saint tout à fait différent, Saint Bonaventure, docteur de l'Église, éminent franciscain, successeur de Saint François, un homme absolument admirable qui a laissé des ouvrages, des livres, des écrits superbes. Alors, nous allons commencer par Saint Camille de l'Hélice. Je m'inspire d'un livre qui s'appelle « Charitable de tous les temps » par une religieuse, sœur Thérésia Rodin. Son frère, à cette bénédictine, était évêque. Elle a publié son livre en 1983 chez SOS, aux éditions SOS. Et elle a écrit quelques lignes sur Saint-Camille de l'Hélice qui m'ont beaucoup inspiré. Et j'ai trouvé aussi quantité d'autres choses sur Saint-Camille de l'Hélice dans toutes sortes de volumes. Et c'est un saint qui est extrêmement attachant. C'est tellement riche, c'est tellement diversifié cette vie, que ça en est passionnant. Comment résumer sa vie sans omettre vraiment quelque chose d'essentiel? C'est bien difficile. Mais je vais essayer avec quelques indications, comme je vous ai dit, que j'ai trouvées ici et là. Et j'espère que la curiosité va pousser quelques auditeurs à mieux connaître ce grand saint qui est extrêmement sympathique. Il est né, Saint-Camille de l'Hélice, en 1550, et il est mort en 1614, 64 ans. Et tout était accompli. Une vie fantastique. Il est sympathique. Il est, comme je vous ai dit, imitable. C'est vraiment un converti, comme on le sent au fond de notre cœur, qu'on a donc besoin de se convertir. Se convertir constamment. C'est pas un converti qui passe là du péché à la vertu, comme il semble que Charles de Foucault soit passé du péché à la vertu, Saint Augustin, etc. Faut aller voir dans leur vie un certain Charles de Foucault, ça lui a pris un certain temps. Mais c'est vrai qu'il est passé plutôt du péché à la vertu, comme on dit, c'est-à-dire d'un espèce d'état difficile et désordonné de sa vie, à une vie qui tout à coup se consacre à ce que Dieu demande de lui. Alors, c'est pas... Il n'est pas passé du noir au blanc. Hein. De toute façon, c'est tellement peu imitable, ces vies de conversion subite, qu'on se demande vraiment comment faire et on risque de se décourager. Mais Camille de l'Hélice, quand on le regarde vivre, on se dit, tiens, tiens, peut-être que je serais capable moi aussi. Alors, on dirait que le bon Dieu a créé Saint-Camille de l'Hélice, comme dit cette religieuse dont je m'inspire, pour nous tous... sommes pleins de faiblesses et qui nous décidons, puis qui reculons, puis qui nous relevons, puis qui retombons. Et puis, je crois qu'on peut remercier ce saint Camille de l'Hélice. C'est un frère pour nous tous d'avoir été si hésitant, instable, tant que la puissante grâce de Dieu ne l'ait pas saisi, malgré lui. En 1549, un an avant sa naissance, dans les Abruzzes, dans les montagnes, au centre de l'Italie, c'est là qu'on fabrique un alcool, ou je devrais peut-être pas dire ça, un alcool qui est assez curieux et qui est pas désagréable, qui s'appelle du punch, P-U-N-C-H. Les gens des Abruzzes sont très fiers de leur fabrication du punch. C'est assez curieux comme alcool. Et alors, faut pas en boire en grande quantité, il faut faire attention, n'est-ce pas? Et alors, donc, dans les Abruzzes, il y a un couple, de l'Hélice, qui sont vraiment désolés parce que 20 ans plus tôt, Ils ont eu un enfant qui est mort peu après sa naissance. Ils n'en ont jamais eu d'autre. Et alors, le père a dépassé les 50 ans, la mère a dépassé les 50 ans. Puis le père, qui est un noble, le marquis de Lélis, c'est un vieux soldat. Il a les cheveux blancs. Et tout à coup, elle est enceinte, Madame de Lélis, et elle met un enfant au monde, et quel enfant! Le berceau qu'ils avaient conservé depuis la naissance de leur premier enfant 20 ans plus tôt était toujours comme une relique dans la maison, et là, il est plein. C'est un gros bébé. Il est vigoureux. C'est un enfant du miracle. Ça remplit la maison de bonheur. Et le père, Jean de Lélis, voit déjà son fils en soldat, puisque le bébé est magnifique. Mais la mère, elle rêve tout simplement d'un enfant qui serait voué à la sainteté. On peut dire que tous deux ont raison, pourquoi pas? Les pères rêvent d'un accomplissement humain solide, et c'est bien, et la mère qui rêve d'un accomplissement spirituel solide aussi, et c'est encore mieux. Mais la mère meurt et le vieux soldat amène Camille aux armées, à l'âge où plutôt il devrait aller à l'école. Mais très tôt son père meurt, son père qu'il admirait tellement. Alors Camille de Lélis est un habitué des champs de bataille, c'est un soldat immense, hein, il y a plus de 6 pieds, plus de 2 mètres. Il a une santé de fer, c'est un homme vaillant, un jeune homme vaillant. Mais c'est un orphelin sans instruction, il n'a pas de force morale. Il est passionné. Je passe par-dessus les passions. Il est surtout esclave du jeu de cartes, oui, du jeu de cartes. Il joue jusqu'à ses derniers sous. Il perd même sa dernière chemise. Il perd même les dernières cartouches de son arme. C'est incroyable. Ça me rappelle mon pauvre fils qui était pris aussi par l'esprit du jeu pas longtemps après que je l'ai adopté, et puis... C'était terrible. Il perdait tout son argent au billard, il perdait le salaire qu'il faisait dans de tristes travaux dans des usines. Quelle angoisse ça me laissait. Mais alors, Camille de Lélis était triste, il était angoissé, il rêvait d'une vie meilleure. Mais il y a eu une plaie à la jambe et ça s'est infecté, ça s'est envenimé, ça l'a rendu boiteux, il était inapte au métier de soldat. Alors il essayait de guérir... En entrant comme infirmier très très simple dans un grand hôpital, l'hôpital Saint-Jacques à Rome, mais la passion des cartes et du jeu l'a repris. C'est un mauvais infirmier, il est négligent, il est distrait. Il n'y a pas de dévouement. Alors on le met à la porte. Et on ne le soigne plus. Pendant des années, il traîne la rue. Il finit par essayer un peu de vie religieuse comme un refuge. Mais il se fait chasser de là. Il retourne à ses jeux de cartes. Il se libère petit à petit, repart chez les franciscains où son infirmité le rend absolument incapable de mener la vie de jeunes franciscains qui étaient très, très austères à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui où les règles sont beaucoup moins austères, heureusement parce qu'elles étaient beaucoup trop austères. Il faut entendre l'abbé Pierre raconter... Comment il a vécu son noviciat et son début de sa vie, non pas chez les franciscains, mais chez les capucins. C'est inconcevable, c'est terrible. Et alors, à Rome, finalement, Camille de Lélis rencontre qui? Le merveilleux Philippe Néri, dont je vous ai parlé il y a un mois et demi. Et Philippe Néri prend une influence définitive sur notre pauvre jeune Camille de Lélis qui est complètement désemparée. Et là, il retourne à l'hôpital Saint-Jacques à Rome. Et les choses marchent tout à coup comme miraculeusement. Il s'aperçoit, au début, et ça le frappe, que l'hôpital est très mal tenu. Ça ne l'avait pas frappé la première fois. Le service est fait brutalement par des employés qui sont payés pour faire ça. Ce ne sont pas des religieux qui donnent leur vie. Ce sont des employés qui sont payés, et malheureusement, ça arrive encore aujourd'hui que certains employés, on en a eu des exemples malheureusement à l'hôpital Saint-Charles-Borromée, je me souviens il y a de nombreuses années, j'espère que ce n'est plus du tout comme ça aujourd'hui, il y avait dans les années 70 des cas exceptionnels, mais des cas d'employés qui était loin d'être très gentil pour les malades. J'étais témoin, moi, de choses épouvantables à la fin des années 60, quand j'ai fait un film sur l'hôpital Saint-Charles-Borromée. Un film que j'ai fait, si je me souviens bien, en 1968. Et alors, on appelle ça aujourd'hui le Centre hospitalier Saint-Charles-Borromée sur René Lévesque, près de Saint-Laurent. Un endroit qu'il faut visiter, il faut voir ça. Hein. La messe là-bas est magnifique. Vous devriez téléphoner et aller à la messe du Père Valère Dubé, l'abbé Dubé, qui est aumônier là depuis des temps immémoriaux et qui fait un travail admirable avec des jeunes qu'on appelle des diacres, mais c'est une diaconie qui chante en grégorien. Il faut voir ça, c'est admirable. Hein, la chapelle, tout ça, et les malades, ah, et les infirmiers, les infirmières, les gens merveilleux qui sont là. Et alors donc, on ignore dans l'hôpital Saint-Jacques de Rome, où Saint-Camille de Lélis retourne, on ignore l'hygiène, les malades sont sans soins, les mourants sans secours. Et Camille est éclairé intérieurement. Lui, cette espèce de vagabond, ce soldat manqué, ce joueur de cartes qui a si souvent scandalisé son monde, bien, c'est lui, ce raté, ce négligent d'autrefois, qui prend en main, quoi, la restauration de cet hôpital. C'est absolument phénoménal. Et petit à petit, on accepte qu'il fasse certaines choses et qu'il règle beaucoup de problèmes. Il ne commande pas, hein, il domine pas, il agit. Il est vraiment transformé. Et il exige de l'économe, petit à petit, l'achat de bons matelas pour les malades et des draps neufs. C'était une chose inconnue. On n'utilisait que de vieux draps sales. Mais c'est lui qui, dans ses bras solides d'homme de 6 pieds davantage, transporte les malades, les installe avec des gestes maternels. Il comprend que Dieu a un cœur de mère et qu'il doit en avoir un, lui aussi, un cœur de mère. C'est drôle, hein, qu'on ne dit pas un cœur de père, mais un cœur de mère. Petit à petit, les pères deviennent plus maternels avec leurs enfants actuellement. Alors on pourra dire des cœurs de père bientôt, comme des cœurs de mère, et ce sera légal, je l'espère. Alors, on suit cet étrange directeur d'hôpital, car il est nommé directeur. Puis, il se réserve tout ce qui dégoûte tout le monde. Il passe des nuits entières au chevet des grands malades. Et comment peut-on ne pas l'écouter quand il demande à des gens de donner honnêtement leur temps? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'âme de Camille? Mais c'est un travail. Un travail de l'Esprit-Saint qui s'opère tout au long de la première partie de son existence et qui tout à coup jaillit. La première partie de son existence est décevante, mais c'est dans ce terreau, comme on dit, dans cette terre difficile. Vous savez que dans la terre, souvent on met du crottin de cheval, j'en ai déjà étendu, comme je vous ai dit, à Saint-Benoît-du-Lac quand j'étais novice. Je sais ce que c'est. Chacun sait. Faut mettre du fumier. Et lui, il avait beaucoup de fumier dans sa terre, et bien ça a jailli. Faut jamais juger, je pense, les récidivistes d'un vice quelconque, car ce sont peut-être les saints de demain. Ne regardons pas de haut ceux qui ont des problèmes. Qui n'en a pas eu? On en a tous eu. Et alors, il y a dans son cœur une explosion de charité. Et Camille de Lélis peut maintenant poursuivre son œuvre. Il fonde une congrégation, oui, il devient prêtre, il recrute des centaines de frères, il crée des hôpitaux. Il donne sa démission de supérieur en 1607, supérieur de sa congrégation. Il meurt dans la joie des humbles, le 14 juillet 1614. Il est mort? Non, 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 il est toujours vivant. Car Camille de Lélis vit dans l'âme de ceux qu'on appelle les Camilliens. Et on peut les rencontrer, les Camilliens. Mais pas ici. On en trouve en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, au Brésil. Il y en avait en Thaïlande. Il y en a beaucoup en Pologne. Et autrefois, j'en ai déjà vu, envoya ses religieux au costume qui était éclairé d'une grande croix couleur de feu, une grande croix rouge. Il était déjà l'initiateur de la croix rouge. Et j'imagine qu'en Pologne, les religieux portent encore des costumes. On doit voir dans des hôpitaux ces hommes remarquables qu'on voit. On sait que ce sont des religieux. Et on peut voir avec quel cœur ils soignent les malades. On les voit penchés sur toutes les misères. Ils sont instruits. Ils ont fait des études médicales. Ils sont spécialisés dans les soins infirmiers de toutes sortes. Ils ont reçu une formation psychologique. Ce sont des religieux formés. On les voit aussi bien faire des lits bien nets et laver consciencieusement le plancher. Mais on trouve aussi parmi eux des pharmaciens minutieux et des prêtres, des aumôniers au cœur brûlant. Et parfois, quand on les voit, on voit un aspect du visage merveilleux de Saint Camille de Lellis. Pour continuer avec Camille de Lellis et pour conclure, je vous rappelle qu'il est fondateur des clercs réguliers au service des malades. Il est patron avec Saint Jean de Dieu de tous les malades et de tous les hôpitaux. Il est né en 1550, vous ai-je dit, et mort en 1614. Sa vie, finalement, est établie sur une parole de Jésus que l'on retrouve au chapitre 25 de Saint Matthieu. « J'étais malade et vous m'avez visité. » C'était un homme qui était lui-même malade. Il souffrait de migraines chroniques, de calculs, de furonculose, dit-on. Il est demeuré 39 ans à l'hôpital. Un vrai témoin de la charité. Il était ordonné prêtre sur le tard à 34 ans. Et c'est là qu'il a rassemblé des compagnons qui portent, en principe, s'ils ont encore un costume, cette croix rouge qui les identifie. En 1930, Pie XI a proclamé Camille de Lellis patron des infirmiers et des infirmières. Je le signale au cas où il y en a qui m'écouteraient. La mission des religieux camiliens, les clercs, les prêtres et les frères, c'est l'exercice des œuvres spirituelles et corporelles de miséricorde à l'égard des malades, même ceux qui sont atteints de la peste, dit-on dans la règle, donc même ceux qui sont atteints aujourd'hui de cette peste terrible qu'est le sida. Et ils travaillent aussi bien dans les hôpitaux que les prisons, et même dans les maisons particulières, et en tout lieu où on a besoin d'eux. Et les Camiliens on lit ça dans la règle, des frères du bien mourir, c'est comme ça qu'on les appelait au début, les frères du bien mourir, c'est beau. Ils regarderont les malades comme leur seigneur et leur maître. Il donnait de bons conseils à ses religieux, il disait, constituez-vous un recueil de prières courtes et ardentes qu'on nomme des oraisons jaculatoires. C'est étrange comme nom, hein, pour les plus jeunes, jaculatoires. Ça veut dire que ça jaillit du cœur, ça sort. Hein. Autrefois, quand j'étais jeune, on nous enseignait ça. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Alors on risque ça. Et moi, j'ai une prière de Saint Ignace de Loyola qui m'a transformé, je vous en parlerai à la fin du mois, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Seigneur Jésus, apprenez-moi à être généreux, etc. Beaucoup d'entre vous connaissent cette belle prière. Je la réciterai à la fin du mois. Et alors, il ajoute à ses religieux, de telles suppliques, mes oraisons jaculatoires, vous seront d'un grand secours auprès des mourants. Que ces moribonds demandent pardon à Dieu, qu'ils lui offrent leur mort en union à celle de Jésus-Christ, qu'ils demandent à Dieu de recevoir leur âme dans le sein de sa miséricorde. Il dit un autre moment quelque chose qui m'est très, très, très cher. Je trouve ça fondamental. C'est une ligne et demie. Un beau discours qui n'évoque pas le divin amour. En somme, un beau discours, un sermon, une homélie ou n'importe quoi. Où il n'est pas question de l'amour de Dieu, en d'autres termes. Hein. Un beau discours qui n'évoque pas le divin amour, c'est un bel anneau auquel il manque le diamant. Et c'est très vrai. Pourquoi servir, donner des anneaux aux gens et les priver du diamant qui va avec? L'amour, c'est la révélation de ce qu'il y a de plus beau en Dieu. Le plus grand Dieu est amour. Hein. Cessons de parler de cette colère de Dieu. Parlons davantage de son amour qui doit transformer nos cœurs au point que nous ne voulons plus jusqu'au très fond de notre être blesser cet amour. On doit craindre Dieu dans le sens qu'on doit craindre de blesser son amour, sa tendresse, sa miséricorde, sa paternité, son cœur de mère. C'est lui qui nous a fait. Il nous a fait par amour et pour qu'on réponde à son amour. Camille Delisle disait, ma musique préférée, c'est la symphonie des pauvres malades. L'un demande qu'on lui retape son lit, l'autre qu'on lui rafraîchisse la langue ou qu'on lui réchauffe les pieds. Quelle suave musique! C'est elle qui doit, par-dessus tout, enchanter les oreilles d'un véritable serviteur des malades. C'est étonnant. Hein? Il disait aussi, « Je voudrais avoir un cœur aux dimensions du monde. » Pie XI, le 28 août 1930, a déclaré, « Il est certain que Camille Delisle a été choisie par Dieu pour prendre soin des malades et apprendre aux autres à les servir. » Un saint vraiment à aimer, un saint à admirer et à prier. Nous allons parler pendant la deuxième demi-heure, tout à l'heure, de saint Bonaventure, qui est un franciscain, comme on les appelle de façon absolument merveilleuse, et je préfère ce titre, un frère mineur. Un petit frère, quoi. Un petit frère, c'est ça que sont les franciscains. Il était cardinal évêque d'Albano. Il est docteur de l'Église. Il a vécu de 1221 à 1274. C'est un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. On l'appelle le docteur séraphique. Et c'est l'une des plus grandes gloires de l'ordre des franciscains. Je vous en parlerai avec beaucoup de plaisir et je termine cette première demi-heure en lisant ce texte qu'il a écrit. « Mon cœur est blessé à cause de toi, dit Jésus. Qui n'aimerait ce cœur déchiré d'une telle blessure? Qui n'aimerait ce cœur si aimant? Qui n'embrasserait ce cœur si chaste? Certes, elle aime ce cœur blessé, celle qui s'écrie, blessée par l'amour qu'elle lui rend, « Je suis blessée d'amour ». Elle répond à l'amour de son amoureuse épouse, celle qui lui dit, « Annoncez à mon aimé que je me languis d'amour ». Nous donc, qui vivons encore dans la chair, répondons, autant que nous le pouvons, à l'amour de notre amant, Jésus. Embrassons notre blessé, dont les vignerons impies ont percé les mains et les pieds, le flanc et le cœur, et prions-le d'enchaîner d'un lien d'amour notre cœur jusqu'ici dur et impénitent, et de le blesser d'un trait de son amour. » Dans saint Bonaventure, bon, j'ai eu longtemps, comme lecture de chevet, un livre de saint Bonaventure. D'ailleurs, je vous lis ce que dit Étienne Gilson, ce grand médiéviste qui était à la source de ma thèse de licence en philosophie. Il écrit de saint Bonaventure que saint Bonaventure est essentiellement un mystique, mais c'est en même temps un philosophe parce qu'il a conçu le projet de systématiser le savoir et les choses en fonction de la mystique. Et c'est même, Saint Bonaventure, un grand philosophe, parce que, comme tous les grands philosophes, il a conduit jusqu'au bout l'expérience qu'il tentait sur une idée. Entré dans le cœur de Jésus, il y est entré Saint Bonaventure, qui est docteur de l'Église et qui est mort en 1274. Il est né dans une petite ville de l'État pontifical, l'État du Pape, au nord de Rome, entre Viterbe et Orvieto. Viterbe, si vous êtes allé là, il y a de vieilles églises, il y a un palais municipal du XIIIe siècle, c'est une belle ville. Et Orvieto, bien, c'est là qu'il y a une belle cathédrale gothique, il y a le palais des papes du XIIIe, XIVe siècle, en tout cas, c'est des endroits magnifiques. Et en 1221, naît notre Bonaventure, qui commence à pousser, mais il tombe malade, très malade. Et sa mère supplie Saint François, qui y vivait encore. Saint François est mort en 1226. Il est né, Bonaventure, 5 ans avant la mort de François. Donc, alors il est malade. Et sa mère va supplier François d'Assise de le sauver. Alors ce pauvre enfant, qui est tout fiévreux, il revient vraiment des portes de la mort, car François a appuyé sa main stigmatisée, car il était stigmatisé, n'est-ce pas, Saint François d'Assise? Il a appuyé sa main stigmatisée contre l'enfant, cette main maigre, toute transpercée, mais qui est rayonnante et brûlante d'amour. Bien, on dit que finalement, elle n'a pas lâché Bonaventure, même après la mort de François d'Assise. Alors, notre jeune Bonaventure va étudier à Paris, il obtient sa maîtrise ça, se décide vers 1243, à 22 ans, à entrer chez les franciscains. Et puis, il n'est pas capable de lâcher Saint François. Hein. Il sait que c'est lui qui l'a guéri. Et là, il y a l'ascendant sur lui de Alexandre de Halès, un des premiers franciscains remarquables, qu'on appelle le docteur irréfragable, oh là là. Et c'est un immense personnage qu'Alexandre de Halès. La pauvreté, qui est rayonnante d'intelligence puis d'éloquence chez Alexandre de Halès, ça l'attire. Et l'ordre des franciscains l'attire encore plus. Car pour lui, l'ordre des franciscains naissants a le charme, on pourrait dire, de l'Église primitive. Et puis, il a l'impression de rencontrer, au fond, les pêcheurs galiléens qui entouraient Jésus et qui sont devenus, on le sait par les actes des apôtres, des prédicateurs incomparables. Alors, les débuts de Bonaventure dans la vie religieuse ne sont cependant pas toujours roses. On raconte, c'est peut-être une légende, n'est-ce pas, qu'une fois le diable cherche à l'étrangler. Et le diable serre si fort la gorge de Bonaventure qu'il n'y a pas moyen de crier et d'appeler. Alors, notre jeune religieux qui râle déjà invoque du fond du cœur la passion du Seigneur, puis on dit que la main du crucifié l'a délivré. Bon, passons. Je vous raconte cette anecdote comme ça. Donc, sous la direction d'Alexandre de Halès, ce franciscain qui est son aîné dans l'ordre de Saint-François, qui est pour lui comme un père, le Bonaventure conquiert les grades qu'on appelle les grades universitaires. Il se plonge dans la Bible, dans l'Écriture sainte. Il se plonge dans l'étude aussi des pères de l'Église dont je vous ai parlé. C'est énorme, les pères de l'Église. Un jour, je vous parlerai bien, je vous l'ai promis, de l'abbé Migne qui a colligé les écrits des pères de l'Église grecque et de l'Église latine, les deux poumons de la grande Église chrétienne, et qui forme des centaines et des centaines de gros volumes. Et alors, il aime mieux l'Écriture sainte et les pères de l'Église que la philosophie puis la scolastique. Mais c'est un philosophe aussi. Il a une sympathie spéciale pour saint Augustin. Et puis en 1243, donc, Bonaventure est promu professeur d'Écriture sainte. Puis vers 1253, 10 ans plus tard, il devient maître. Et puis, On dit que dans des espèces de concours de d'éloquence sur les sciences sacrées, alors on raconte dans des textes qu'il casse des lances pour l'honneur de Dame Humilité, qui est la reine de tous les religieux. Il casse aussi des lances pour Dame Pauvreté, la reine des mendiants, c'est un ordre mendiant, les franciscains. Et puis, il se combat aussi pour les sœurs Chasteté et Obéissance, qui sont attaquées par des gens qui sont des ennemis de ces ordres nouveaux, que sont les franciscains et les dominicains. Alors, il parle de Dame, c'est un peu dans l'esprit de Saint François, qui parlait de Dame Pauvreté. Et alors, il y a une vaillance chez lui, ça lui vaut d'être élu ministre général de tous les franciscains, tous les frères mineurs, comme je disais au début, au chapitre de Rome, le 2 février 1257. Il remplace donc Saint François d'Assise. Il va rester à ce poste pendant 26 ans, c'est énorme, jusqu'au 20 mai 1273. En somme, Saint François a bien choisi. Ce successeur est plein de sagesse. C'est comme s'il était le second fondateur de l'ordre des franciscains. Car il va préserver les franciscains des excès de relâchement et aussi des excès de ceux qu'on appelle les élantis, ceux qui ont trop de zèle, ceux qui sont un peu fanatiques, quoi, qui visent à un idéal qui est absolument intenable. En 1260, donc 3 ans après avoir été nommé ministre général, au chapitre de Narbonne, il promulgue ce qu'il appelle les constitutions. On trouve ça dans toutes les congrégations et les ordres. On lui demande d'écrire une vie officielle de Saint François. Il la rédige après enquête en Italie. Il y voit une montée en 6 étapes dans la vie de Saint François qui est marquée par 6 apparitions du crucifix et qui s'achève sur le mont Alverne qu'on connaît. C'est là qu'il a reçu les stigmates. C'est un poème admirable que ça s'appelle la Legenda Maior, la grande légende. On peut citer la conclusion du chapitre 13 sur les stigmates sacrés. Bonaventure dit à son maître François des choses absolument superbes et finit par conclure « La croix du Christ qui t'est apparue et que tu as embrassée au début de ta conversion, que tu as porté continuellement dans la suite à toi-même, en toi-même, par une vie très parfaite, et que tu as présenté comme un modèle aux autres, nous a appris, avec une évidence incontestable, que tu étais enfin parvenu au sommet de la perfection évangélique. » Alors, c'est une déclaration, quoi, de la grandeur de Saint François d'Assise, comme étant peut-être le plus grand saint évangélique de l'histoire de l'Église. Et Bonaventure termine, et cette manifestation de la sagesse chrétienne imprimée dans la poussière de ta chair, nul homme vraiment dévot ne la rejettera. En somme, Bonaventure, qui n'est pas robuste, il s'impose des fatigues de l'inspection fréquente des maisons, des prédications nombreuses. Il parle aux franciscains, aux frères mineurs, près de 100 fois. Il parle aux dominicains, aux prêcheurs, aussi aux bénédictins de Cluny, dont je vous ai déjà parlé hier, et de Saint-Denis, à des clarisses, à des moniales, à des béguines. Il parle au peuple des fidèles. Il s'adresse parfois même à la curie romaine, la haute administration de l'Église. Il parle aux clergés des cathédrales. Il publie, c'est des manuscrits, il fait des publications ascétiques et mystiques, qui porte au loin, n'est-ce pas, sa pensée, pensée d'un grand contemplatif. Peu avant 1257, il donne le Briviloquium. Il écrit ça pour Gerson, le fameux Gerson, dont je vous parlerai aussi un jour. Gerson, pour lui, il considère ça un joyau de la théologie médiévale. 2 ans plus tard, en 1259, paraît son livre « Méditer longuement sur l'Alverne ». C'est la plus belle, sans doute, des œuvres mystiques du XIIIe siècle. Ça s'appelle l'Itinerarium Mentis in Deum, c'est-à-dire l'itinéraire, le cheminement, si on veut, de l'esprit en Dieu, qui achemine l'âme vers son Dieu. L'amour s'y appuie là-dedans, dans cette œuvre-là, sur la philosophie et la théologie. C'est une pédagogie spirituelle, une pédagogie spirituelle de professeur expérimenté qui ne veut pas brûler les étapes, mais quand il arrive au sommet de son livre, il écrit « Pour ce passage des créatures à Dieu, la nature ne peut rien et la science très peu de choses. Il faut donner peu au travail de l'intelligence, peu à la langue, peu à la parole et au livre, peu ou rien à la créature. Il faut donner tout au Créateur, tout au Père, Fils et Saint-Esprit. Interrogez la grâce et non la science, dit-il, le désir et non l'intelligence, les gémissements de la prière et non l'étude livresque. Interrogez Dieu et non l'homme, non la lumière qui brille, mais interrogez le feu qui embrase tout entier et transporte en Dieu. » Alors, après ce grand livre, Saint Bonaventure publie La Triple Voie. Il publie aussi L'Arbre de Vie. Puis il publie un livre qui a un titre tout à fait à la Olivier Messiaen, Les cinq fêtes de l'enfant Jésus, où il nous montre comment l'âme peut concevoir spirituellement. Concevoir spirituellement, nommer, adorer et offrir le Fils de Dieu. Car nous sommes appelés, on peut dire comme Marie, à concevoir en nous Jésus, celui qui croit en moi. Mon Père et moi, nous viendrons en lui et nous y ferons notre demeure, dit Jésus. Nous sommes donc des porteurs de Jésus, des Christophe, c'est ça que ça veut dire, Christophe, porteurs de Jésus. Et nous sommes porteurs de Jésus, pourquoi? Pour le nommer, l'adorer et l'offrir, comme dit Saint Bonaventure, l'offrir aux autres. Et pour le roi Saint Louis IX, il compose un office de la Passion. Saint Bonaventure, qui honore l'Église, devient tellement important que le pape Clément IV veut le nommer archevêque d'York en Angleterre. Le 24 novembre 1265, mais Bonaventure refuse cette gloire, si on peut dire, et en 1269, il est à Paris. Il rentre dans toutes sortes de controverses sur les perfections évangéliques. Il lance un livre, Apologie des pauvres, selon l'idéal des franciscains, selon l'idéal de la vraie vie religieuse. Et en 1271, deux ans plus tard, il réussit à faire élire pape Grégoire X à Viterbe, là où il y avait le palais des papes. Ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas de pape. Puis en 1273, du 9 avril au 28 mai, il prononce à Paris ses conférences sur l'hexamérone contre l'avéroïsme latin. C'est une espèce de séquelle philosophique de l'aristotélisme. Et le 28 mai 1273, le pape Grégoire X crée Saint Bonaventure cardinal évêque d'Albano. Alors, Bonaventure reçoit donc à Lyon, dans le sud de la France, la consécration épiscopale, et bientôt, le 7 mai 1274, l'année suivante, il y a un second concile écuménique qui s'ouvre à Lyon. Très important concile écuménique, je vous rappelle l'année 1274, et le 28 juin, notre franciscain, Saint Bonaventure, qui a toujours été soucieux du bien de l'Église en Orient, l'Église de rite oriental. Il est émerveillé car il voit l'Église grecque qui se réunit à l'Église romaine. Enfin, ils étaient séparés depuis 1054. Ils se réunissent, mais malheureusement, ça ne dure pas très longtemps. Et c'est le grand souhait de notre pape Jean-Paul II actuellement que nos deux Églises se réunissent. Il faut prier pour ça. On prie à chaque messe pour l'unité de l'Église. Il faut bien remarquer cette prière dans le canon de la messe, c'est superbe. Donc, à la messe papale, après l'Évangile chanté en grec et en latin, après cette grande union, Bonaventure prend la parole pour la dernière fois dans une assemblée chrétienne et il meurt chez les franciscains de Lyon le 14 juillet à 53 ans. Quand Saint Bonaventure est mort à 53 ans, comme je vous ai dit, le 14 juillet 1274, à Lyon, chez les franciscains, et savez-vous que Grégoire X, le pape, a ordonné auprès de l'univers entier de célébrer une messe pour lui? Un honneur sans... ça s'est jamais fait avant. Dante l'a mis dans son paradis. Hein? C'est au chapitre 12, numéro 127. Et Dante remarque son souci de faire passer le spirituel avant le temporel, ce qui est méritoire pour un administrateur, car Bonaventure était un administrateur, hein? Et Dante dit que c'est méritoire pour un administrateur. Je trouve ça assez sympathique. Car c'est pas facile, vous savez, il y a des religieux qui sont presque sacrifiés dans l'administration de l'argent, qu'il faut bien, parce qu'il faut payer le loyer, il faut payer les assurances, etc. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe, et ils sont parfois comme un peu déprimés par ce travail difficile. Alors donc, notre Saint Bonaventure a été canonisé par Sixte IV, un franciscain, le 14 avril 1482, donc 208 ans après sa mort. Il a été déclaré docteur de l'Église par Sixte Quint, un autre franciscain, le 14 mars 1588, donc 314 ans après sa mort. On raconte qu'un vieux frère qui s'appelait Égide, Égide, ça veut dire, c'est le même nom que Gilles, hein? C'est le même nom. Donc, il s'appelait Égide, a demandé un jour à ce bon père Bonaventure, voici la question. Quelqu'un qui ne sait ni A ni B, peut-il aimer Dieu aussi bien qu'un savant qui sait tout? Et Saint Bonaventure a répondu, bien sûr, une pauvre petite vieille peut l'aimer mieux qu'un docteur en théologie. Ce qui veut dire que le bien qui est diffusif en soi, qui se répand, « bonum diffusivum sui », disait-il. Alors, le frère Égide, lui, c'était un expansif. Je pensais un peu à mon fils, là. Expansif par nature. Alors, le vieux frère s'est mis à courir, à crier à la balustrade du jardin, « Oyez, oyez, mes frères, une pauvre petite vieille peut aimer Dieu encore mieux que notre père Bonaventure. » Le père Bonaventure, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pensé, ça entre les cas. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la voix, par la voix de ce vieux frère et de Saint Bonaventure, on peut comprendre que seul importe le cœur, la charité. Et que sans elle, on perd notre éternité, on perd notre vie, on perd notre temps. Je le répète, c'est trop important. C'est dans Saint Paul, c'est dans toute la pensée chrétienne, c'est dans la pensée de l'Église, ça nous a été répété 1000 fois, et je vais le répéter 1001 fois. Seul importe la charité, le cœur, et que sans elle, nous perdons notre éternité, nous perdons notre temps, nous perdons notre vie. Avant de quitter Saint Bonaventure, on pourrait apporter ce conseil. Éloigne de toi les glaces, la froideur de la paresse spirituelle et de la tristesse. Elle recouvre, dit Saint Bonaventure, un chemin de confusion qui conduit à la mort. Intérieurement et extérieurement, demeure toujours joyeux et paisible. Intérieurement, là, au fond de vous-même, là. Extérieurement aussi, dans votre figure, demeurez toujours joyeux et paisible. En somme, un saint triste est un triste saint. Et Saint Bonaventure continue en disant, ne contredis jamais personne et ne t'oppose pas à ce que les autres désirent, à moins que la gloire de Dieu ou le salut des âmes ne s'y opposent. Conforme à la volonté divine toutes tes affections et tes volontés. Que ta volonté soit faite, nous enseignait Jésus, hein, conforme à la volonté divine, toutes tes affections et toutes tes volontés. Saint Bonaventure continue. Quand ce monde, tout contribue à ton édification et que rien ne te scandalise, grâce à la pureté et à l'innocence que tu as reçue de la bonté divine. Hein. Des tas de Juifs catholiques souvent se scandalisent de ci, se scandalisent de ça. C'est tellement plus simple, finalement, et moi le premier, je voudrais que j'apprenne ça, de pas me scandaliser, de toujours regarder de façon positive ce qui se passe. Souhaiter que ça s'aille mieux, du fond du cœur, essayer de les transformer délicatement avec intelligence. Saint Bonaventure ajoute aussi, aime tous les hommes, toutes les femmes, aient pour eux et pour elles l'amour et les attentions qu'une mère a pour son fils unique. Aimant tout le monde dans la charité du Christ, rends-toi également aimable à tous. C'est un extrait d'une lettre que l'on appelle la lettre des 25 choses à retenir. En somme, la réponse de Saint Bonaventure que je vous ai citée tout à l'heure au frère Égide, ça rappelle Saint Augustin. On retrouve ça dans la patrologie de Ming dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans le tome 36, colonne 1021-1022. Comment serai-je plénitude de science, dit Saint Augustin? Qui me donnera cette plénitude? Tu sais où la trouver. La plénitude de la loi, c'est la charité. N'y va pas par quatre chemins et ne t'écartèle pas. Tu es effrayé par le fouillis des branches. Tiens la racine et ne t'inquiète plus de la grandeur de l'arbre. Si tu as en toi la charité, nécessairement la plénitude de science suivra, ajoute saint Augustin. Que peut ignorer celui qui sait la charité? Puisqu'il est dit, Dieu est charité. Et vous souvenez-vous de la bienheureuse Vincente Gérosa dont je vous ai parlé le 28 juin, elle qui avait eu de bien mauvais parents et qui est devenue une bienheureuse, hein, je l'avais signalé que c'est pas en grattant les souvenirs de son enfance et en se plaignant de ce que nos parents ne nous aient pas donné ceci et cela, puis j'ai si abandonné, puis j'ai ci, puis j'ai ça, mais non! Regardez de l'avant et faites comme la bienheureuse Vincente Gérosa qui a eu tous les malheurs dans son enfance, et elle dit « Qui ignore le crucifix ne sait rien. Qui sait le crucifix sait tout. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand on contemple un crucifix, ne contemplons pas le Christ qui offre tout son sang pour, comme pour plaire à son Père qui en aurait besoin, mais regardons plutôt le crucifix d'abord et avant tout comme l'expression de l'amour de Jésus pour nous, expression, verbe du Père, image de l'amour du cœur du Père pour nous, amour qui est l'Esprit Saint. Dans la Perfection de la vie chrétienne, au chapitre 6 de Saint Bonaventure, il écrit « Approchez-vous de Jésus cloué au gibet de la croix, et avec l'apôtre Saint Thomas, non seulement regardez sur ses mains la trace des clous, non seulement placez votre doigt dans les trous laissés par les clous et votre main dans son côté, mais par la porte ouverte de ce côté, pénétrer entièrement jusqu'à son cœur. »